En propos liminaire, si vous voulez, je vais partir d'une évidence. Enfin, d'une évidence pour moi. Que l'on prenne la plupart des grands auteurs. Et je croise en général, moi, des apports de la psychanalyse, de chercheurs comme dépassés aujourd'hui, dit-on encore que, comme Laborie, Henri Laborie, qui a fait beaucoup de choses sur les comportements violents, avec, à travers sa revue d'agressologie en particulier, que j'avais rencontré dans le temps. Girard, qui continue, qui a des théories, somme toute, assez efficaces, et quand on croise ces modèles théoriques, on arrive assez bien à comprendre ce qui se joue dans la violence et dans les situations de violence. Il y en a d'autres, hein, d'auteurs. Et qu'on lise Chesnay il y a 30 ans ou Mönchengladbach maintenant, on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, ce que j'ai marqué là d'ailleurs, en intro, l'être humain est fondamentalement, c'est une phrase de Freud, fondamentalement structuré par la violence. Bon, on part de ça. Alors, ça ne rend ni pessimiste ni optimiste, hein. C'est comme ça que c'est ainsi que les choses sont faites. Et je vais situer tout de suite la problématique, puisque j'y reviendrai dans les situations. La problématique même de la violence, elle va forcément à un moment, même si elle est liée, vous allez voir, vous le savez, à des contextes, à une société, à des événements locaux, à une problématique, y compris imaginaire, elle est toujours, elle se structure, elle se joue, elle se monte, elle se met en scène, elle se scénarise dans les interactions. Donc, il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que la violence, quand on y est, on la voit se dérouler, se développer, et nous sommes partie prenante, la plupart du temps. Je veux dire, quoi qu'on dise, même si on ne dit rien, c'est un comportement qui va influencer la situation. Donc, je vais partir de cette idée. L'être humain, fondamentalement structuré par la violence, il y a des phrases définitives, je relisais l'autre jour un passage d'Hannah Arendt. Freud a dit à peu près la même chose après la guerre de 14-18. Combien de temps faut-il à un être humain pour devenir meurtrier? C'est-à-dire, bon, pour passer, pour basculer dans le meurtre. Et elle répond très peu. Ça dépend, quoi, des circonstances. Alors, deuxième point, mais ça, c'est toujours dans les prolégomènes. La relation, donc, qui est une relation, on a fait un livre là-dessus il y a 30 ans, qui s'appelle La relation violente. La relation, elle est originairement, narcissiquement violente. Mais on sait bien ça, des tout petits exemples simples. Hein. La rencontre de quelqu'un, le phénomène de la rencontre entre les êtres humains est toujours marqué par cette approche l'un de l'autre et cette fonction de l'angoisse qui fait que vous le savez comme moi, la première fois que vous êtes arrivé ici, si vous étiez jamais venu, vous rencontrez des gens, les personnes avec lesquelles vous êtes en formation, il y a une approche. On se regarde, on se parle pas, on se dit bonjour, et des rituels qui font que ça s'installe ou pas, mais il y a quelque chose là d'inévitable, qui fait qu'on se rencontre ou pas. Un de nos psychiatres préférés, Jean Houry, répète souvent, la violence est une rencontre ratée. Alors, troisième point, toujours en prolégomène, hein. Bon, la société, ben, la société est ce qu'elle est. Et donc, moi, je m'ôte de l'idée, c'est une intro, l'analyse que je suis en train de faire sur les violences institutionnelles. La société, que peut-on faire? On peut contrôler, réguler la violence. On a un terme, nous, je parle des groupes avec lesquels j'ai travaillé, métaboliser. Métaboliser la violence. Ben alors, l'éradiquer, la supprimer, on ne se pose plus la question. Ces dernières années, j'ai pas mal tourné. Hein. Je veux dire, j'ai été au Japon, plusieurs fois en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, au Chili, dans différents endroits. Et je suis en lien avec aussi bien des enseignants que des écoles dans les favelas. Mais c'est vrai que, comme le dit un livre paru il y a 2 ans, il y a parfois des écoles dans des favelas, je pense à une favela de Recife, où j'étais il y a 2 ans, mais bien plus tranquille que certaines de nos écoles, du 9-3, l'époque du 9-3, parce qu'on parle toujours du 9-3, on peut le trouver ailleurs. Hein. Et paradoxalement, quand la société est extrêmement violente, c'est durkheimien, ça. Il y a des îlots de pacification, et c'est en particulier le rôle de l'école qui, d'un commun accord, est joué souvent dans les pays les plus problématiques. Et cette école sert à ça, effectivement, à cette pacification des mœurs. Alors, je vais commencer par la violence, en distinguant tout de suite, hein, je vous le dis là, c'est un de mes amis psychanalystes qui a fait tout un livre là-dessus, il ne faut pas mélanger la sûreté et la sécurité. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on traite de violence à l'école, progressivement au fil des années depuis 10 ans, on a rabattu tous les phénomènes de violence sur la délinquance. Hein. Il n'y a pas que ça. Dans ma conception à moi, la violence, c'est vraiment un prisme, c'est une échelle, avec des problématiques de comportement, vous allez le voir, qui vont des coups, donc du physique, jusqu'à ce que certains ont déjà appelé, il y a plusieurs années, les violences invisibles, à bas bruit, quelque chose qui tient des attitudes, de la méconnaissance ou de la non-reconnaissance, ou tout simplement du mépris, parfois du mépris obscur et non formulé. Donc cette échelle de violence, là, que je vais développer très vite, je l'ai découvert dans le travail que je faisais dans les années 90, où j'essayais de comparer les violences en Europe, particulièrement Allemagne, Angleterre, France, et chez les anglo-saxons, j'ai découvert cette dimension à travers ce qui s'appelle le bullying, vous en avez entendu parler, bully, B-U-2-L-Y, hein, bully, bullying, le bullying, d'ailleurs toute l'Amérique latine ou le Canada, ils parlent de bullying, ils parlent pas de violence. Si vous parlez de violence, ils ne vous convainquent pas tout de suite. Vous parlez avec des Anglais, ils parlent de violence à l'école, ils vous font répéter parce que ça ne veut pas dire grand chose pour eux. Voilà, ce que ça voudrait dire, ce que ça pourrait dire, c'est violence, c'est... Alors effectivement, là on est dans la délinquance ou même la criminalité, donc c'est l'affaire de la police, terminée. Mais ce qui les intéresse, c'est pas ça l'école, c'est le bullying, c'est-à-dire ce que j'avais appelé dans ma traduction, après avoir beaucoup réfléchi, les malmenances à l'école, quoi. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, y compris les phénomènes de harcèlement, qui n'ont pas nécessairement une dimension physique, hein. Les phénomènes de harcèlement, les phénomènes de quarantaine, dont on commence à beaucoup parler, parce que ça, comme le reste, une fois que c'est télévisualisé, ça donne ce que vous savez, puisque dans le Nord, j'en viens, il y a eu, je crois, on a eu le quatrième ado qui s'est suicidé, là, la semaine dernière, donc juste pas loin, enfin dans le secteur où je me trouve, là, et c'est vrai que ce phénomène, c'est comme tout ce qui joue dans les institutions aujourd'hui, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Là, on est dans un phénomène de contagion mimétique. Là, c'est du Girard aussi, mais c'est vrai qu'on est dans la contagion mimétique qui est... C'est finalement la seule manière pour les victimes, un peu comme les personnes, malheureusement, qui en arrivent au suicide, c'est la façon qu'elles ont de se retourner contre le système et de poser le problème du système. Alors, voilà. Donc, ne mélangeons pas sécurité et sûreté. La sécurité, c'est quelque chose qui tient plus au physique, c'est-à-dire on est en sécurité quand on est dans des lieux repérés, géographiquement situés. Là, on peut être en sécurité, mais la sûreté, il y a une dimension psychique dans la sûreté qui va ajouter à ça un confort de relation ou sinon un parrainage, du moins une garantie. Et par exemple, dans ces phénomènes de suicide auxquels on assiste là, on sent bien, on voit bien, quand on regarde de près, que non seulement ils n'étaient pas en sécurité, par exemple ces jeunes, mais ils ne sont pas en sûreté. Il n'y a plus d'adultes qui tient pour eux, ou qui les a tenus. Et c'est ça qui lâche. La sécurité, ça peut durer un certain temps, on peut se sentir en insécurité, mais rester en sûreté. Rester en sûreté, quoi. Il y a quelqu'un qui passe, qui vous demande quelque chose, ou vous arrivez dans l'établissement, je me rappelle, il y a déjà 30 ans, quand on commençait à discuter, faut-il sortir ou non, vous savez, des établissements, déjà avec certains chefs d'établissement, au Blanc-Ménil par exemple, un des chefs d'établissement du lycée professionnel, lui, le périmètre de son établissement, il l'étendait à 400-500 mètres autour du lycée professionnel. si bien qu'il allait voir le concierge des immeubles plus loin, il allait voir l'épicier, parce qu'il y avait toujours des accrochages à l'épicerie, donc il tournait avec son adjoint, et alors je vous garantis que cette technique-là, pendant 2 ou 3 semaines à la rentrée, terminée. Ça pacifiait les environs, dire bonjour aussi, savoir qui arrive, les saluer, enfin, on a eu des grandes discussions là-dessus, c'était dans les années 80 quand même. Hein. Et ça paye toujours. Ça paye toujours parce que ça illustre une déclaration de la pédagogie institutionnelle qui est assez spectaculaire et simple, que j'écrivais sur un tableau dans une classe comme ça ou autre, attention, point d'exclamation, être humain. Attention, être humain. Et après on parle. Attention, être humain, moi, vous, nous. On est là combien de temps, on fait quoi? On va définir des règles, hein, parce que c'est pas simple. Si ça dure 3 heures, si ça dure 30 heures. Donc attention, être humain. Hein. Respect. Point. Ça, ils comprennent bien. Tout le monde comprend bien. Donc, voilà. Je suis dans ma première partie de la violence. Alors, de la violence, je ne vais pas trop m'attarder, puisque c'est la signification des comportements qui nous intéresse. Hein. Mais il faut bien réfléchir à la qualification de la violence, comme disent les criminologues. J'ai fait quelques cours en criminaux quelques années à Rennes, à l'Institut de criminologie de Loïc Villeurpuf. Donc j'ai quand même pas mal approché cette question. C'est vrai que la qualification est fondamentale. De quoi parle-t-on? Si on appelle violence un acte, quel qu'il soit, et c'est la tendance qu'on peut avoir, parce que au premier degré, vous le savez, je le respecte, hein, chacun d'entre nous n'a pas les mêmes échelles personnelles, les mêmes seuils d'appréhension de la violence. Et on a parfaitement le droit de supporter ce que d'autres ne supportent pas, ou de ne pas supporter ce que d'autres supportent. Vous avez des enseignantes, j'ai connu des enseignantes, ou des enseignants qui, dans des établissements, ne supportaient pas le moindre gros mot. Un juron ou merde, entre guillemets, j'en ai connu une, alors ce n'était pas possible, elle arrêtait tout de suite. Ça a payé, elle arrivait à faire des choses autour de ça. Mais 3 classes plus loin, il y avait quelqu'un d'autre, lui, alors il n'en prenait même pas, quoi. Hein. Et ça lui arrive aussi, de s'exprimer comme ça. Donc, il y a ces diffractions qui font que, effectivement, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, mais on n'est pas dans le domaine des définitions, ni de la qualification. On est dans le domaine du vécu, et après, si on veut dire, il y a eu un événement violent hier matin, donc c'était lundi hier matin à 9h15, il faut savoir de quoi on parle, et pouvoir le décrire dans les termes qui conviennent à la situation, et pouvoir démontrer que c'était violent, et que c'était de la violence. Alors la violence, je reprends là quelques chercheurs, hein, très vite. On sait déjà depuis très longtemps, ça s'est chaîné dans les années 80, comme il dit, c'est un phénomène à géométrie variable, la violence. Hein, on ne s'attarde pas, mais les codes ne sont pas... Les codes pénaux, par exemple, le code pénal, c'est pas pareil. On n'est pas dans le même système au milieu des favelas brésiliennes que même dans le 9-3 ou dans la banlieue lyonnaise. Il est certain que j'étais au Mexique il y a juste un an, là, dans un hôtel où les mafieux avaient enlevé 5 touristes. Il y avait des morts tous les jours, comme j'ai vécu en Amérique centrale, je parle espagnol, donc je traduisais les journaux aux collègues, il y avait un colloque sur l'absentéisme scolaire à Monterrey. C'était presque drôle parce que l'absentéisme scolaire, ça veut dire à Monterrey, au milieu des narcos, il y avait entre 10 et 20 morts tous les matins, dans le journal, mais à côté, hein. À la mairie, sur l'autoroute, ou un escadron de gendarmes complètement décapité, enfin bon. Donc c'est vrai que c'est, vous voyez, relatif, hein, très relatif, et donc on parle pas de la même chose d'un pays et l'autre, et surtout ça veut dire qu'il faut savoir et se situer dans le cadre des codes qui sont les nôtres. Donc effectivement, il faut déjà, si, surtout chez les établissements ou responsabilité d'autorité, quelle qu'elle soit dans les institutions, ben, il faut commencer, c'est vrai, par connaître son code pénal. Hein. La PJJ avait monté des expositions, vous connaissez peut-être, 13-18, questions de justice, maintenant il y a la France en dessous, donc il y a des choses tout à fait intéressantes, il faut bien connaître ça pour... ça aide beaucoup, hein. Moi je m'en suis servi en maternelle primaire, hein. Parce que c'est la loi, quoi. C'est pas... Quand vous avez la loi, vous dites, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Je ne suis pas en train de te dire, je ne suis pas en train de t'interdire quelque chose. C'est un peu comme l'attention être humain. C'est marqué là dans un livre, c'est le livre. Le livre, voilà, je le mets là, tu vois ce livre. Mais le livre, il est valable pour tout le monde. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, phénomène à géométrie variable, et puis on peut l'entendre de trois façons chez, pour les chercheurs ou les théoriciens. Vous savez qu'il y a tout un courant qui développe et qui continue de développer l'idée que la violence est fondatrice. Ben, tous les courants politiques en particulier, c'est vrai que la violence, elle est fondatrice. C'est elle qui est à la base des phénomènes de, d'émeutes, de révolutions, des grandes transformations. Il y a toujours de la violence. Et il y a des écoles comme les écoles de polémologie qui ont bien montré qu'il y a toujours, toujours, en quelque sorte, des formes de violence qui s'installent quand les sociétés fonctionnent plus très bien, alors avec plus ou moins de destruction. Il faut essayer qu'il y en ait le moins possible, mais il y a donc pour certains, usant du paradoxe, une dimension fondatrice de la violence. C'est vrai que c'est elle qui... Ben, on le voit dans les établissements, vous le savez sans doute, vous l'avez vécu. J'ai rarement vu un établissement, mais j'en ai vu heureusement, hein, qui devançait la violence, et qui mettait en place une série de mesures, une politique, une pédagogie, des liens avec le quartier, les familles, un réseau comme ça, un réseau de sûreté justement, psychique, qui tient l'établissement et qui fait qu'on y va tranquille, quoi, en sifflotant le matin, et on n'a pas la peur au ventre, ou on ne file pas tout de suite aux toilettes pour rester aux toilettes enfermées pendant 5 minutes avant de pouvoir prendre son cours ou aller au cours tout simplement. Donc c'est vrai que dans ce phénomène de violence, il y a une dimension de sûreté-sécurité qui, on va y venir, qui peut être travaillée longuement. Alors, violence fondatrice. C'est vrai que la violence, alors moi, donc c'est moi qui parle là, je pense que c'est une, je reprends un de mes amis, Richard Lebrun, c'est une psychanalyste, une pathologie de l'agressivité. La violence, moi je l'entends comme un seuil de pathologie, hein, c'est-à-dire que c'est une construction typiquement humaine, typiquement interactionnelle, on est inscrit dans cette culture, c'est une culture, mais il y a un seuil de pathologie parce que ce qui va... séparer la violence, on va dire, de l'agression ou de l'agressivité que tout le monde connaît, puisqu'on a, on a d'ailleurs intérêt à avoir un minimum d'agressivité, j'ai dit un minimum, hein, pas un maximum. C'est vrai qu'il y a de la pathologie dans cette dimension de violence, parce qu'il y a toujours de la destruction. C'est ça qui va caractériser ce qui fait qu'on tire plus vers la violence qu'autre chose. Il y a de la destruction, c'est là qu'on va commencer à voir de la pathologie. Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus, hein, je ne t'attarde pas trop, beaucoup de choses écrites. Cette pathologie de l'agressivité, ça veut dire que on a fait de l'agressivité, bon, il y a beaucoup d'auteurs qui l'expliquent bien, hein. On a fait de l'agressivité cette culture humaine qui fonctionne un peu partout, puisque vous le savez, c'était à un moment la grande politique de formation des cadres, et vous pouvez trouver, vous aviez pu trouver même à l'éducation nationale, dans les formations, vous aviez des dimensions de cet ordre où il fallait faire appel à cette dimension d'agressivité qui est la nôtre, une culture de l'agression pour être mobilisé, mobilisable. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à en tirer, la vigilance. Mais la vigilance, une fois qu'on a travaillé là-dessus, quand on a une certaine idée, je ne m'embarque pas plus loin, mais c'est vrai que la vigilance, c'est de l'agressivité vaine. Moi qui suis allé au Japon, et puis pour des raisons, j'aime bien le Japon et les arts martiaux et pas mal de choses, j'ai quand même été voir ça de près. La vigilance, mais c'est le contraire de l'énervement. Il n'y a pas d'angoisse, hein. Enfin, elle est juste là, quoi. C'est une petite lumière. Hein. Alors donc... fondatrice, il y a cette dimension de pathologie qu'on entend comme ça, dans la croissance, enfin, dans le développement de ce qui va être l'agression, l'agressivité, on arrive à la violence. Et alors, pour s'en tirer, un certain nombre de chercheurs nous disent souvent aussi, les politiques le disent aisément, qu'elle est instrumentale. Bon, ça, vous le connaissez. Il y a des théories en psychologie sociale américaine qui montrent bien que effectivement, vous et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en citant Hannah Arendt ou Freud, quand on est pris dans des situations dramatique, plus l'enjeu est fort, le moins on va mettre de temps à passer par la violence, quoi. Et même si on ne le fait pas, on va y penser. Je me souviens d'une enquête que j'ai menée il y a au moins 30 ans, dans la région, dans le nord déjà, tiens, autour de Lille, avec, bon, c'était des adultes, hein, et je leur demandais, alors, ils étaient tous plus ou moins contre la violence. Pourquoi la violence, la violence? Et alors j'avais fait un petit questionnaire qui les amenait à répondre à, bon, la violence, qu'est-ce que c'était pour eux? Et puis dans quelle situation je serais violent? Jamais. Oui, mais si on touche à quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de votre famille, enfin c'est Le Pen qui avait dit ça une fois, vous savez, puis on arrive à votre femme ou votre fille, alors là, ça y est fait, hein. Dès qu'on arrive aux enfants, il n'y en a pas un qui n'était pas violent. Tout le monde, à ce moment-là, se dit, ah ben oui, là, j'hésiterai pas une seconde. Et une demi-heure avant, ils étaient tous pacifistes intenses. Hein. Alors, pour continuer et finir avec ces histoires de seuil, j'ai construit une échelle que vous retrouverez dans un petit article de 5-6 pages et des définitions internationales. La définition de la violence, la plus simple que je vous donne maintenant, et cette échelle ensuite. La définition la plus simple, c'est étymologiquement l'usage de la force. Vis, de is, le sanskrit, vis, veilles, latin, en grec, il y a des formes de cet ordre aussi. On est dans quelque chose de la force, mais vous voyez l'ambiguïté, parce que quelle force? Freud dit la force musculaire, mais il n'y a pas que la force musculaire. Il faut avoir des manières de fonctionner dans la force, l'usage de la force, qui ne sont pas uniquement que du physique, justement. Mais on reste là-dessus, dans un premier temps. La violence, c'est l'usage de la force. Et alors j'ai conçu une échelle que vous pouvez avoir en tête pour ce qui va être dit ensuite. Cette échelle que j'avais reprise d'un américain, Boss, BU2S, des années 30, hein, mais que j'ai mis à ma sauce, peut-on dire. Elle va de ce que j'ai commencé à citer tout à l'heure, des violences physiques directes, bon, les coups et blessures, hein, toutes les atteintes physiques, à, alors en passant par les violences verbales, l'injure, on ne sait jamais trop, et pas assez, on le sait, que les violences verbales, c'est dans le code pénal. Hein. Et puis vous avez des que sais-je, des livres, vous avez une psychanalyste en France, Evelyne Larguèche, qui a travaillé sur l'injure, elle a 4 livres aujourd'hui, en 20 ans, vous avez 2 que sais-je sur... C'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière l'injure. Ce sont des coups déplacés. C'est-à-dire que ça remplace les coups. Alors, on peut le traiter positivement si ça remplace les coups, mais on peut ne pas oublier, il vaut mieux ne pas oublier, qu'en fait, c'est une sorte de coup aussi. Mais alors donc, vous avez ces violences physiques directes, verbales directes, psychologiques directes, tout ce que les Américains, par exemple, appellent les atteintes haineuses, ils appellent ça maintenant, enfin maintenant, depuis 20 ans, les atteintes haineuses dans lesquelles ils mettent tout ce qui est de l'ordre du racisme, mais du racisme anti-homme, anti-femme, anti-handicapé, enfin, vous voyez. Et tout ça, il y a 20, 25 ans, quand on a commencé, il y a 30 ans, quand on a commencé à le travailler, moi je l'ai découvert par les anglo-saxons, et le premier qui a vraiment travaillé sur les violences à l'école en Europe, mais il y a déjà 50 ans, hein, Dan Olbeus, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, j'ai fait traduire son seul livre chez ESF en 99. Ça s'appelle Bullying, What We Know, What We Can Do. Je l'avais rencontré à l'État Oslo, et je l'avais rencontré à Strasbourg à un congrès de victimologie. Et donc j'ai fait traduire son livre qui est d'une simplicité, d'une clarté totale, qui fait 100 pages. C'est un livre d'intervention, quoi, sur tout ce qu'il faut mettre en réseau pour tenir un établissement. Et Dan Olbeus, alors, a été au Japon, aux États-Unis, au Canada. C'est lui qui a inspiré toutes les écoles anglo-saxonnes. C'est le plus connu d'entre eux, Dan Olbeus. Alors cette échelle, donc, elle va de ce que je vous dis, tout ce qui est de l'ordre de l'atteinte physique, des coups et blessures, et vous arrivez à l'autre pan de l'échelle, on va dire, c'est pas mécanique, hein, complètement, à ce qu'on va appeler les violences physiques indirectes, verbales indirectes, psychologiques indirectes, les violences que j'appelais à bas bruit, qu'un de mes thésards avait dans une de ses thèses appelé les violences sans agresseur. Vous n'avez pas un agresseur physique direct, par exemple, il avait fait une très belle thèse, lui, sur le passage de l'architecture à l'informatisation. Et il y a des gens qui ont pété les plombs, il y en a qui sont devenus fous, qui ont laissé tomber leur boulot, il y en a qui sont très bien adaptés, lui il est architecte, donc il a fait une thèse assez fantastique, où il développait cette idée qu'il se passait quelque chose qui était de l'ordre des violences institutionnelles, mais C'est tout le système qui était violent. Il n'y avait pas une personne qui rackettait, qui opprimait, qui détruisait quelqu'un, un chef de service par exemple, comme c'est un grand classique des violences institutionnelles, qui s'en prenait à quelqu'un et qui était son bouc émissaire, non. C'était le système qui, par ses ratés, par la déstructuration mentale que ça impliquait chez la personne, par la perte d'usage de ses moyens, etc., le mettait en position d'effondrement psychique au sens de Winnicott, et commençait à le faire doucement basculer vers ce qui est la grande constante du siècle aujourd'hui, encore que mes amis psychiatres contestent le terme, ce qui veut tout et rien dire, la dépression. La dépression, c'est la grande constante, quoi, hein, institutionnelle. Donc, ayez cette échelle en tête, parce qu'elle est importante. Les violences des violences à dimension physique, on passe vers des violences non pas plus subtiles, mais plus cachées, qui aujourd'hui prennent la une. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit du harcèlement, c'est important. Les enquêtes de Barbieux, etc., tout ça, c'est important. Mais Dan Olweus développait ces enquêtes-là il y a 25 ans. Les conclusions de son livre qui date du début des années 80, je peux vous dire, c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Et il donnait déjà à l'époque pratiquement les recettes sur ces questions de réseau pour prévenir le harcèlement, parce que le harcèlement, c'est un montage victimaire. Ce montage victimaire, il ne peut jamais être dû seulement à la victime, évidemment. C'est une construction, la victimation. Et par conséquent, cette construction, elle est institutionnalisée. Donc on est tous dedans, quoi. On n'est pas responsable d'eux, mais il y a un réseau de montage qui fait que si ce réseau a monté la chose, on peut la démonter. La discrimination, par exemple, ça faisait rire quand je revenais il y a 20 ans, parler de discrimination, où il y a eu des discussions autour de ça en France, j'en passe les meilleurs, ça continue d'ailleurs, aux États-Unis ça continue aussi, il y a même des États entiers qui ne veulent plus entendre parler de ce terme parce qu'il est trop ambigu. Alors nous, on a aussi des termes qui sont abandonnés ailleurs hein, maintenant, comme incivilité. Incivilité, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire, incivilité, mais si on veut employer le terme d'incivilité, on va mettre derrière incivilité quelque chose qui peut nous permettre de nous situer dans un établissement ou dans une classe, hein, très vite. L'incivilité, c'est tous les comportements comme ça qui manquent aux us et coutumes, à l'usage social et à la relation sociale qui est la nôtre. Ça, c'est Villorbu qui le dit, et c'est vrai que c'est, faut l'entendre comme ça, quoi. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas revendiquer que, par exemple, l'ambiance ou les mœurs soient policées. J'emploie le terme à volonté. Alors, les comportements violents, c'est toujours dans ma première partie, je ne m'attarde plus trop là, à partir de cette échelle, hein, donc je l'évite, hein. On est donc dans la dimension du pénal, dans la dimension du social par ailleurs, et il faut faire très attention et les connaître aux codes, les codes qui sont les nôtres. En particulier pour parler au nom des codes. Alors les comportements violents, moi je vais les définir tout simplement comme des comportements d'atteinte. C'est donc mon terme, vous avez vu, qui revient souvent là. Les comportements d'atteinte. Alors, comportement violent, c'est atteinte à trois ordres, à trois dimensions des choses. À l'institution, les atteintes à l'institution, ça doit être comptabilisé. Ça implique des choses, alors ça peut paraître abstrait, mais je vais le traduire très vite. Hein. Quand on va à l'école, c'est pour étudier. Il n'y a pas tellement à discuter. Il n'y a rien à discuter. On va à l'école, c'est pour travailler. Donc ça veut dire tout ce que vous savez, c'est-à-dire il faut son matériel, etc. Il y a des heures de cours, bon. Alors, ça ne veut pas dire que on va le clamer haut et fort, mais hop, c'est ce qu'on appelle entre nous le degré zéro. Le degré zéro, l'institution, c'est ça, quoi. Si on est là, moi je suis la prof ou chef d'établissement ou conseil d'éducation, professeur, si je suis là, s'ils sont là, si vous êtes là, les élèves, c'est parce qu'il y a le degré zéro. Sinon, je serai ailleurs. Alors, comportement d'atteinte à l'institution, à la civilité. J'ai bien aimé quand même, quand j'ai découvert, c'est assez orwellien, mais en Angleterre, vous ne circulez pas dans un établissement sans dire bonjour. Tout le monde vous dit bonjour, vous dites bonjour. Si vous ne dites pas bonjour, on vous le fait remarquer. Je suis arrivé dans un établissement à Bristol un matin avec un grand foulard rouge. Le chef d'établissement m'a fait déposer mon foulard rouge. à la conciergerie en arrivant. Parce qu'il était trop voyant. Ça m'a filé un coup, j'ai dit, ce qu'elle me fait là. Et puis finalement, j'ai compris. Hein. Après, elle a appris deux élèves qui m'ont accompagné toute la matinée. Et à midi, j'ai mangé avec l'état-major là. Et elle m'a expliqué qu'effectivement, j'avais repéré le matin aucun vêtement voyant dans l'ensemble de l'établissement. Pas de couleur voyante. Et pas de. Alors, ça se discute, hein, mais personne beaucoup mieux habillé que d'autres, non. D'où, après, les petits corsages pour les filles, et puis pour les garçons, les petites vestes, bon, et terminé, l'uniforme. Alors, moi qui n'étais pas du tout là-dedans, fortement impressionné, j'ai récupéré à la consigne mon foulard, et j'y ai quand même beaucoup pensé. Et je me suis dit, bon, atteinte à la civilité, c'est comme ça que j'ai compris la chose, j'avais atteint leur civilité. Donc c'est moi qui avais tort, effectivement. Atteinte à l'institution, à la civilité, atteinte à l'autre. Alors là, c'est dans l'escalade. Hein. L'atteinte à l'autre, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, on attaque le seuil de l'agression, la pathologie de l'agression. Et là, quand on touche à quelque chose où il va y avoir de la destruction, comme le disent à peu près tous les spécialistes, c'est là qu'on rentre vraiment dans cette culture typiquement humaine, où malheureusement la violence fonctionne comme un programme. Et ça peut devenir un programme. Donc voilà l'idée de départ qui lie le reste. Hein. Donc la violence, je vous l'ai dit, c'est une rencontre ratée. J'ai marqué là aussi, si on prend l'option psychanalytique, c'est du transfert contrarié. C'est un transfert contrarié. Quand on a le temps d'analyser finement les situations, même qui sont dramatiques à l'arrivée, hein, parce qu'une situation, ça dure un certain temps. Enfin, un événement violent, il peut durer 10 secondes, 30 secondes. C'est rare encore que j'ai connu une sorte de prise d'otage dans un établissement scolaire où le chef d'établissement est resté sous la menace du frère aîné d'un groupe de gitans qui était venu régler les comptes pour son petit frère, armé, et qui a tenu le chef d'établissement en respect de l'autre côté de son bureau pendant, ça a duré une heure et demie. Quoi. Mais c'est exceptionnel. Ça est bien terminé. Toujours pareil, dans la négociation, comment on va structurer quelque chose, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une toute petite situation, il ne faut jamais oublier qu'elle peut s'être développée depuis 3 mois. On va y revenir tout à l'heure. Elle s'est construite, toujours. Alors, deuxième partie, signification des comportements violents. Alors, un comportement violent, moi, je le vois toujours dans un peu comme une fusée à 3 étages, on va dire ça comme ça. Il y a 3 degrés, 3 étages. Dans une situation. Je viens de l'avancer, il y a un contexte, une contextualité, une contextualisation. C'est-à-dire, effectivement, peut-être que à passage à l'acte, entre 2 jeunes, je prends quelque chose d'assez simple, dans la cour de récréation, il y a une bagarre. Il y a toujours des gens qui regardent en plus. Mais peut-être que l'un des deux est en train de régler quelque chose qui s'est fait avec son frère 2 mois avant et qu'il a en tête, qui est une représentation liée à sa famille. Je pense toujours aux gitans, je ne sais pas pourquoi ce matin, c'est encore une histoire de gitans que j'ai en tête là. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait qu'il a réglé quelque chose. Mais ça a pris tout un temps et l'opportunité se met en place ce matin-là. Alors évidemment, personne ne comprend bien ce qui s'est joué. En fait, pour comprendre ce qui s'est joué, il faut remonter à cette construction pour les protagonistes d'une situation qui a déjà plusieurs mois, ou qui peut dater de l'année d'avant. Je pense à une bagarre dans une classe que le prof ne comprend pas, une prof d'anglais, quand je discute avec elle, la bagarre dans la classe, en fait, il y a 2 groupes dans la classe qui ont été mis ensemble pour le cours d'anglais, et l'année d'avant, ces 2 groupes étaient en rivalité, n'étant pas dans la même classe. Et c'est 2 types de groupes tout à fait différents, avec des codes sociaux pas du tout les mêmes. Il y a un groupe, on va dire, plutôt avec des leaders, plutôt petits bourgeois, il y a un fils de pharmacien là-dedans, par exemple. Et les autres, c'est vraiment, au contraire, c'est d'origine très populaire, défavorisée. Et c'est justement un des gamins du 2e groupe, leader, qui se lève, il traverse toute la salle, il saute sur le gamin, le pharmacien, et il lui met un coup de boule, quoi, en pleine classe. Totalement incompréhensible pour enseignant, parce qu'en fait, l'histoire date d'un an. Alors, ça prendra des développements tout à fait étonnants. puisque bien sûr, plainte, il va être renvoyé, il va harceler l'établissement pendant plusieurs mois, il est mineur, mais il va être arrêté, relâché, etc. Ça n'en finira pas pendant des mois, cette histoire. L'année d'après, l'autre protagoniste d'ailleurs change d'établissement, change de ville. Enfin, il y a une histoire qui est restée à l'état résiduel, jamais résolue, jamais parlée, et qui a garché la vie de l'établissement pendant... Il jette des cailloux dans la cour. Et personne ne sait par quel bout le prendre. Donc ça, c'est le contexte. Il y a toujours un contexte, parfois un contexte assez banal. Un contexte un peu, maintenant, c'est très à la mode, dans la contagion que je citais tout à l'heure, un contexte émotionnel d'humiliation. Hein. Un contexte de... Il faut faire très attention maintenant à ce qu'on dit des mauvais élèves. Comment on qualifie les élèves. À ce qu'on fait remarquer à des bons par rapport aux mauvais. Ça rate pas, ça, aujourd'hui. Hein. Alors, ça, c'est le contexte. Donc, il y a un contexte qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais il y a une situation. Le deuxième niveau, c'est la situation. Bon, la situation, c'est comme maintenant, on est là, physiquement. Je ne donne pas les détails, il y a les géographiques, il y a les physiques, il y a des dispositifs. On peut prendre une chaise, on peut bouger les tables, un certain nombre de choses, balancer l'ordinateur, enfin, des trucs comme ça, quoi. Si on veut se battre. Bon, donc, mais ça, c'est la situation. Donc la situation, elle a un déroulement, un temps, toute une logique propre. Moi je dis souvent, alors il y en a qui n'aimaient pas, ou qui n'aiment toujours pas, c'est un film. C'est comme un film. Mais c'est que vous êtes en train de tourner, quoi. Donc dans le film, il y a des seuils. Et j'ai pas trop le temps de le démontrer, mais on le verra dans les situations. Chaque fois qu'une situation s'enclenche, si vous avez le loisir de la mettre à plat, d'étudier ce qui se dit, les mouvements, les attitudes, entre les différents protagonistes et les gens qui regardent, alors s'il y a des gens qui regardent, ça accélère toujours le processus, chaque fois qu'il y a développement de situation, il y a des seuils où ça pouvait s'arrêter, vous le savez. Et puis il y en a un qui relance. Il y a quelqu'un qui envoie quelque chose, un mot, ou qui fait un geste, et puis ça repart. Et en fait, ça ne s'arrête pas, donc il y a plusieurs épisodes souvent dans une situation. La situation, c'est donc une sorte de scénario, de film à scénario. Il y a des réparties, des attitudes, là aussi, donc c'est dans ce que j'appelle ces violences d'attitude. Il y a des violences d'attitude qui accélèrent ou non le processus. Et puis le troisième niveau, bah, c'est le comportement lui-même. Le comportement, c'est-à-dire, bon, s'il y a un coup ou une injure, ou si ça s'arrête. Si ça s'arrête, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a arrêté la situation. Et donc chaque fois qu'on peut l'analyser, le comportement en question, si on peut le décortiquer, on va l'entendre au sens du passage à l'acte, au sens quasi psychiatrique du passage à l'acte, c'est-à-dire passage à ou par l'acte, comme disent les spécialistes. Hein. Alors c'est vrai que pour saisir tout ça, il faut quand même avoir le temps, en établissement ou ailleurs, de faire un petit peu d'analyse institutionnelle, de faire du débriefing, comme la police a appris à le faire heureusement depuis longtemps, ou dans les urgences, enfin, à peu près dans toutes les professions sensibles aujourd'hui, le débriefing n'est plus contestable. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Quand on arrive à débriefer les situations, ce que j'appelle, j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez dû recevoir ça, les situations types, quand on va arriver dans un établissement à la rentrée, on devrait avoir en tête les 40 à 50 situations types qui caractérisent cet établissement-là, quoi. C'est pas très compliqué, ça. Ça ne veut pas dire qu'on va les empêcher, mais on sait que ça existe. On peut les mettre en trois colonnes. Hein. Ça se produit fréquemment, moins fréquemment, puis ça, presque jamais. Et donc, ce débriefing de comportement, on l'entend comme un passage à l'acte, et le passage à l'acte, vous savez que ça a toujours un sens d'accomplissement pour l'acteur, dans les deux sens du terme. Parce que, quand je disais tout à l'heure, atteinte de l'autre, la violence est une atteinte de l'autre dans son acmé. Atteinte de l'autre, ça peut être atteinte de soi. Hein. Je mets toute cette problématique de l'atteinte de soi qui aujourd'hui, encore une fois, dans cette contagion mimétique dépressionnaire que l'on connaît, on est quand même à des centaines de suicides si on prend toutes les institutions cumulées, hein, depuis Renault, mais en passant par les hôpitaux publics et l'éducation nationale, on est à des centaines de suicides en 10 ans. Et ce n'est pas 10 ou 15, c'est des centaines. J'ai d'ailleurs assisté à un colloque au ministère, mais c'était, ça devait être en 96-97. Déjà, on a travaillé une journée entière sur dépression, passage à l'acte, mutilation, suicide. Pas les élèves. Hein. La Verrière, vous connaissez. Ça m'avait amené à La Verrière à étudier les types de pathologies mentales qui touchaient les enseignants. Et il faut le savoir, c'est toujours dans le début de fonction, hein, c'est le plus grave, c'est dans les 5 premières années. Et ça tourne autour de cette dimension de dépression, mais ça, quand, ça peut revêtir des accès psychotiques. Et quand ça se déclenche dans les 5 ans, alors après, il n'y a pas grand-chose à rétablir. Hein. Et évidemment, ça va laisser ses traces. Hein. Il y a beaucoup d'études hein, publiées là-dessus. Hein. Par La Verrière, justement. Alors, toujours dans la signification, donc on a ça en tête pour les situations, et là je vous renvoie une partie des analyses des auteurs que j'ai cités. Je me sers donc souvent aussi, je me servais, je l'utilise toujours, de l'aborie dans une équation, une sorte d'équation simple, qu'on peut avoir en tête parce qu'elle est très très pratique. L'aborie dans une situation d'angoisse, il explique que très simplement, plus l'angoisse monte, ben plus on est poussé à l'acte. Parce que comme il explique bien dans toutes ces théories, vous et moi, nous sommes des... Ce qui nous reste de l'animalité, et qui est très présent, c'est que nous sommes des acteurs. On est dans l'agissement, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, d'ailleurs, toute la maîtrise, puisque je parlais de zen tout à l'heure, tout ce qu'on peut apprendre dans ces courants différents-là, c'est d'arriver à tenir cette angoisse, quoi, hein, le temps qu'il faut. Mais sinon, il faut passer à l'acte. Il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, on peut, comme je disais tout à l'heure, métaboliser la violence, ça veut dire quoi? La remplacer, la traduire, la déplacer, etc. Faire autre chose, bon. Et Laborie nous dit, bon, se soumettre, il y a trois réponses dans une situation de violence. Se soumettre, fuir ou lutter. Je reviens sur mes grands principes de base. Se soumettre, comme il dit, c'est une position sociale. On accepte de soumettre, par exemple, à la loi de l'établissement, à, y compris la violence. Bon, on sait qu'il y a de la violence, on va s'organiser pour la tenir. Alors, se soumettre, fuir ou lutter, c'est les trois grandes dimensions, là aussi. Se soumettre, ça veut dire, comme Laborie l'explique bien, que pour se soumettre, il faut non seulement avoir des raisons, mais en être gratifié. Que quelqu'un vous dise, ah, super, disons, on t'a pas entendu depuis un mois. Tu te contrôles bien, dis. Pourtant, je l'ai entendu, mais alors là, je suis contente. Je tenais à te le dire. Et je le dis devant tout le monde parce que je suis moi-même étonné. Moi-même, des fois, je perds mon contrôle alors que toi... Alors, pour se soumettre, effectivement, il faut être complimenté. Il faut être gratifié, dit Laborie. Et si vous n'êtes pas dans cette dimension, vous ne pouvez pas vous y inscrire, il y a la fuite. Laborie éloge de la fuite. Hein. Il explique que la fuite, c'est le réflexe le plus élémentaire de l'être humain. Et de l'animal. Contrairement à l'être humain, l'animal n'attaque et ne se défend qu'acculé. Et c'est ce qui doit s'appliquer en particulier dans les théories qui respectent cette problématique, là je pense aux meilleurs arts martiaux. Se soumettre, fuir ou lutter. Et alors il explique aussi que, par contre, ce qu'il appelle la lutte, lui, c'est fondamental, c'est-à-dire c'est une sorte de jeu comme ça de conflit. Et c'est là que vous allez retrouver une autre idée très simple. C'est faire glisser la violence vers le conflit. Parce que le conflit, ça se verbalise, ça se parle. Ça se parle et donc on peut échanger, on peut négocier, on peut être, comment dire, violent dans les mots, comme disait quelqu'un que je connais, violent dans les mots, ensemble, mais on n'est déjà plus dans ce seuil complètement larvaire ou cristallisé sur la violence, on n'a pas encore la possibilité de jouer. On ne joue pas. Evelyne Larguès, la psychanalyste, montre bien dans ses analyses de l'injure que toute la différence, elle est là. Hier, je lui avais dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait à l'école avec ces histoires? L'injure, alors qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, oula, il faut 15 jours pour réfléchir. Je reviens 15 jours après. Et elle avait réfléchi, elle me dit, mais il faudrait qu'on arrive à jouer avec. Elle me dit, tu sais, alors, c'est une psychanalyste qui aime bien les haltérophiles. Donc elle regarde les haltérophiles à la télé, elle me dit... Et à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, le russe, là, qui lève 180 kilos à l'extérieur. Et il injurie sa barre. Vous l'avez déjà entendu. Il injurie sa barre. Salope, putain de barre, je vais t'avoir, tu vas voir. Et puis il saute sur la barre, clac. Elle dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Elle dit, l'injure, t'as vu pour lui? Elle me dit, c'est comme s'il prenait un cachet de l'aspirine, tu vois, il prend un truc, paf, c'est pareil. Elle me dit, bah, à l'école, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, parce que, mais faut pas jouer, hein, avec n'importe quelle injure. Pas les trucs primitifs qui réveillent des gros fantasmes, pas des mots qui n'ont pas de sens, hein, gros compte, non, c'est pas ça. Il faut essayer de développer quelque chose qui va aller vers l'ironie. Parce que quand on commence à ironiser sur ce qu'on est en train de dire, on passe dans une autre culture. Enfin, elle m'a laissé tout un numéro qui m'a bien servi, puisqu'après, par exemple, j'ai monté des formes de théâtre action directement branchées sur le conflit et l'injure, qui marchaient très bien. Personnel, élève, hein. Très régulier. Au moins deux à chaque fois on était, bon, etc. Alors, dit autrement, la situation violente, il faut avancer, elle est toujours construite. Là, je vous donne mes conclusions globales des cours d'autrefois. Elle est toujours construite. Elle est toujours relationnelle. Il y a un moment, elle est relationnelle. Même si ça ne joue pas sous nos yeux. Hein. Quelqu'un peut rentrer chez lui et être obsédé par quelqu'un d'autre hein, pendant 24 heures, vous le savez. Et il revient le lendemain, il ne l'a pas quitté. Hein. Construite, relationnelle, bloquée. Bloqué, c'est là que vous allez avoir ces seuils de passage à l'acte. C'est quand elle est bloquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir, et en plus on vous regarde. Donc se jouent tous les codes, et bon, alors je pense toujours à mes gitans, mange tes morts pour un gitan, ça c'est le sommet. Là. Bon. Maghrébin, ça ne sera pas tout à fait pareil. Il y a des indices culturels qui font que, bon, comment, alors, c'est là que l'autorité, la personne qui est présente, si elle l'est, qui représente l'autorité ou l'institution, qu'elle a un tout petit peu de formation ou un tout petit peu de bon sens pour prendre ce micro-recul qui fait qu'elle va ou dire quelque chose ou bouger de façon à ouvrir la situation. Parce que on peut la refermer aussi. Par exemple, on pense qu'il a tort. Alors si on en rajoute, ça y est, hop, l'escalade est en route. Donc construite, relationnelle, bloquée, ce qui me fait dire aussi que les violences en institution ne sont jamais gratuites. Et que quand tout ça est bloqué, on ne peut ni se soumettre, ni fuir, ni lutter, que ça se construit, que c'est bien relationnel et que ça se bloque, eh bien, il n'y a plus que l'agir qui compte, dit Laborie. Il ne reste plus que l'agir, et donc il va y avoir de la victimation. Victimation en situation, hors situation, ça peut être le lendemain à l'extérieur, au marché, par exemple, le vendredi matin, pas du tout dans l'établissement, ou en lien avec, par exemple, une prof, persécuté par trois élèves, c'était à Bourges. Alors ils avaient trouvé un truc hallucinant, hein, mais personne ne voulait s'en occuper, mais c'est vieux, hein, parce que les gens ne disaient pas notre problème. Alors ils la suivaient dans la rue, ils attendaient qu'elle sorte de chez elle, et puis ils l'appelaient par son prénom, tout simplement. Hein. Je ne sais plus quel était le prénom, mais ils criaient dans la rue, un peu comme Guy Bedos, Paulette, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Bon, ça a l'air de rien, mais ils ont requêté ça, alors ils la suivaient dans les magasins, elle allait à la piscine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle ne sortait plus. Elle a commencé à raconter ça à son mari qui ne savait pas quoi faire, à ses collègues qui disaient, oui, il ne sait pas quoi faire non plus. Chef d'établissement, il ne savait pas quoi faire non plus, il n'était pas dans l'établissement. Et elle a complètement pété les plombs et elle s'est mise en congé de longue durée. Et elle est restée chez elle, jusqu'à ce que le mari porte plainte, enfin, il y a eu, etc. Et ça s'est très vite arrêté. Hein. Plainte portée, la police est intervenue, bon, ils ont été interpellés, il n'y a pas eu... Ça n'a pas été tellement spectaculaire, mais ça s'est arrêté là. Sauf qu'elle était déjà bien atteinte. Et l'histoire que je vous raconterai tout à l'heure, c'est la même chose. Alors encore une petite distinction qui peut nous servir dans les analyses de situation. Ça, c'est un criminologue des années 80, 70 même, Kimberg, qui distingue, ça m'a servi beaucoup ça aussi, les situations qu'il appelle amorphes, des situations mixtes et des situations spécifiques. Alors une situation amorphe, c'est... celle que tout le monde connaît, quoi, vous, je sais pas, vous sortez de chez vous, et puis vous passez par une rue, bon, mais vous y passez tous les jours, il y a des tas de gens qui passent dans cette rue, et vous circulez, alors il peut vous arriver quelque chose. Mais en même temps, il n'y a pas de raison qu'il vous arrive plus quelque chose ici qu'ailleurs. La situation mixte, c'est un peu entre les deux. C'est ce matin-là, je sais pas, moi, il y a une grève générale, par exemple, tiens, ça tombe bien. Il y a une grève générale, et puis il n'y a pas de moyen de locomotion. Alors vous êtes obligé de faire tout à pied et de passer par une autre rue avec un quartier où il y a pas mal de... Vous savez qu'il y a des élèves de l'établissement, bon, les familles, etc., que c'est un quartier, bon, et vous êtes interpellé. Donc c'est une situation mixte. Et la situation spécifique, c'est quand, alors vous, vous allez carrément, vous avez un problème avec un groupe, et vous allez carrément où il est, quoi. C'est-à-dire vous passez où il est, et vous allez voir ce groupe. Vous passez juste à côté, vous allez les interpeller. Là, vous êtes dans la situation spécifique. C'est-à-dire il peut arriver des choses que vous aviez prévues, ça arrive. C'est dans ce sens-là que je parlais, moi, du coefficient angoisse-émotion. Ça aussi, ça peut servir, parce que quand on pète les plombs, c'est que l'angoisse, comme la bruit montre bien, passe le seuil de tolérance, quoi, hein, physique, psychique plutôt, aussi bien, les deux. Et donc ce coefficient angoisse-émotion, c'est ça qui va déclencher ce que les Américains appellent le « raging circuit », le circuit d'enragement. Quand quelqu'un pète les plombs, il se met à tout casser, il saute sur quelqu'un d'autre, ou ça sort, il ne peut plus, on ne peut plus l'arrêter. Quand quelqu'un est dans cet état-là, c'est pas la peine de lui faire, on est d'accord, hein, du raisonnement. Il n'y a pas grand-chose à... Quand il est dans ce que j'appelle la violence engagée, bon, soit on vide tout ce qu'il y a autour et on le laisse se développer, soit on attend que ça se passe, mais ou alors si on connaît bien et on n'est pas tout seul et on peut se le permettre, on l'approche et on le calme, mais sinon, c'est trop tard. La violence engagée, elle appelle autre chose. Alors, ça me fait dire aussi que les violences institutionnelles, ben, elles sont toujours du même ordre. Hein. Les violences institutionnelles, malheureusement pour nous, ça ne veut pas dire que c'est la violence qui fabrique tout, hein, que l'institution, pardon, fabrique tout et l'essentiel des violences, mais ça veut dire que les violences, elles sont institutionnelles dans un établissement scolaire. Et moi, j'entends l'institution jusqu'à, comme je l'ai dit, les environs de l'établissement, les familles, enfin, tout ce qui est lié à l'établissement qui fait que ce qui va se passer dans un circuit, je ne sais pas moi, de 1,5 km, ça fait partie de l'établissement. J'avais bien aimé en Angleterre, déjà, ce qui avait fasciné Chevènement quand il y avait été à l'époque. Ça sert à quoi l'uniforme? Ça sert que, tout simplement, si vous avez un uniforme, vous êtes à 1,8 km d'ici, et il se passe quelque chose, tout le monde sait d'où vous êtes, quoi. Donc, on sait qu'il vient de tel établissement, et on sait d'où est parti l'accrochage. Donc évidemment, tout de suite après, on est sur l'interpellation. Alors, c'est pas... Alors, ça a une dimension policière, mais ça peut avoir aussi, comment dire, pas de dimension policière au sens du flicage, ça a une dimension de protection, de sûreté. C'est très important, on avait discuté d'une situation comme ça à Trappes, je me souviens, c'est très important par deux gamins, je crois que c'était un vol de... Ils étaient rentrés dans un magasin d'informatique, ils avaient arraché un... Ils avaient piqué, je crois que c'était un gros poste super performant, là. Ils étaient partis en courant, mais pas marqué rien. Donc, ils avaient été repérés parce qu'ils étaient un peu connus. Donc, tout le monde savait qu'ils venaient de Gagarine. Alors, il avait été très important de leur dire, on n'est pas la police, hein, mais on sait que c'est vous, quoi. On vous a vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, ben, c'est vous, on va parler. De toute façon, il a porté plainte. Bon, la police ne va pas tarder, mais alors on fait quoi là maintenant? Alors, bon, parce qu'il y a une dimension de sûreté de... Voilà ce qui s'est passé. C'est un fait, comme dit Dolto, il y a eu, mettons, un vol, ça ne veut pas dire que c'est un voleur à vie. C'est un vol. Bon, là, il y a quelque chose à réparer. On va voir comment. Mais ça ne veut pas dire que tu voleras dans 15 jours, on n'en sait rien. Je ne peux pas faire cette hypothèse. J'aime mieux pas le faire, d'ailleurs. Donc, ça nous amène toutes les problématiques du harcèlement, ce que je disais tout à l'heure du harcèlement, de la victimation institutionnalisée. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère dans l'éducation nationale, vous le savez aujourd'hui, il n'y a pas que l'éducation nationale dans nos institutions en général à nous. C'est vrai que vous savez qu'il y a une atmosphère qui fait que, effectivement, ce climat d'angoisse, ce climat dépressionnaire, encore une fois, fait qu'effectivement, la victimation, elle est là, quoi. Ça favorise la mise en scène des victimations. Je le dis comme ça. Alors, je vais terminer par mes deux situations. Il ne va pas falloir que je m'attarde trop. Je vais les prendre à l'envers. Je vais prendre la situation de classe d'abord. Parce que la situation d'établissement, elle est complexe. Je vais les résumer outrancièrement. Hein. Mais voilà, alors les situations... Comment ? Les situations violentes, Je vous le dis comme ça pour introduire mes deux situations, ce sont des comportements identitaires, toujours. Et ça a un sens et une identité. Il y a de l'identité qui se fait, qui joue là-dedans. Alors, une histoire qui peut paraître banale, hein, qui avait donné lieu à un mémoire de maîtrise en 91, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, c'est une professeure de français qui est dans un lycée professionnel de Suresnes, qui me raconte ça, puis on a fait tout un travail, et d'ailleurs elle est partie de l'établissement comme beaucoup d'autres, hein, l'année suivante, parce que bon, un établissement qui était plutôt tranquille, arrive dans cet établissement, alors il y a un élève assez jeune qui arrive, un jeune maghrébin en début d'année, en retard sur les autres. Hein. Il est plutôt agité, il tient pas en place, il commence à se faire chahuter par tout le monde, les profs leur perdent, tout le monde leur perd, et donc c'est la rentrée, mais il arrive un mois après tout le monde, et un mois et demi après, enfin, 15 jours, 3 semaines après l'élève, arrive une jeune professeure aussi, maître auxiliaire, qui arrive et qui est affectée à cette classe, qui n'avait pas de professeur de français, je crois. Alors, cette jeune maître auxiliaire, elle a un profil victimaire aussi, débutante, d'un peu plus d'un an. Elle a été nommée localement à la Toussaint, elle pensait être en lycée technique, elle se retrouve en lycée professionnel. Je le souligne parce qu'elle le souligne. Elle en parle aux collègues. Elle apparaît sur l'emploi du temps alors que les élèves avaient un trou dans l'emploi du temps. Elle doit par ailleurs, ça, elle enseigne l'informatique et le traitement de texte qu'elle ne maîtrise pas du tout. Ça, c'est les pièges de l'éducation nationale, des trucs, mais à se flinguer, entre nous quand même. Hein. Elle est bien diplômée, elle dit, moi, c'est diplômé, j'ai pas mérité ça, etc. Ouais. Très vite, on s'aperçoit que ça va pas du tout, mais elle veut rien dire. Et alors, la prof vient me voir, et puis elle me dit, on entend des bruits dans le couloir, dans la classe où elle est, et quand on passe, on voit des trucs qui volent, enfin, elle dit, ah bon. Et tout ça prend une certaine ampleur, et puis, quelques semaines plus tard, tout ça au mois de novembre, hein, ça a été très vite, elle est stressée, elle a peur, me dit la professeure, et on le sait. Mais la copine, la professeure, la jeune maître auxiliaire, elle nie ou dénie à toute allusion qu'on lui fait. Un vendredi à 16h20, un vendredi, notez, c'est pas neutre, à 16h20, c'est la fin du... Bon, elle prend la classe. Après un stage qui a laissé les élèves sans enseignant et enclenche aussitôt une interrogation écrite. Elle ne sait pas quoi faire, interrogation écrite. Le chahut est total pendant 30 minutes. D'après son rapport, alors là c'est son rapport, hein, je lis son rapport, elle reçoit un œuf, venant de la classe, lancé à sa gauche, son pullover est tout mouillé, elle regarde et découvre avec stupéfaction une énorme tache jaune au-dessus de son coude. Donc elle a pris l'œuf ici, écrasé. Elle a donc regardé, elle découvre cette tache, ensuite elle découvre le liquide incolore sous son bureau, elle se lève, elle se retourne en regardant sa chaise et elle voit la coquille d'œuf qui est tombée. Atteinte. Elle ne sait pas qui est responsable. En fait, c'est la classe. Les délégués vont à sa demande chercher le proviseur. Celui-ci n'obtient pas l'exclusion et finalement, après des pourparlers, ça dure. Bon, un élève se désigne. Notre élève se désigne. Mais la situation a évolué. Le conseil, alors, il désigne sur la promesse que lui fait le chef d'établissement. Il y aura une sanction, mais il n'y aura pas de suite. On va essayer d'arranger tout ça. Et il se retrouve en conseil de discipline, ce qui n'était pas prévu. Les professeurs demandent un conseil de discipline et il est exclu. Le père vient, fait tout un tintouin. L'élève est complètement dépassé, la famille aussi. Tout le monde sait bien, les profs y compris, puisqu'on en a interviewé à ce moment-là, que l'élève a été manipulé, quoi. C'est quelqu'un qui lui a donné l'œuf, etc. Bon. Une autre main a armé la sienne, on se le dit. Le crime indifférenciateur, c'est le terme de Girard, hein, appelle justice commune et sacrifice plus que sanction. L'élève est exclu, appelle au rectorat, et alors, devant la plus grande hésitation du rectorat, etc., ça prend un certain temps, et finalement, il réfute la sanction qui avait été prise, et il demande la réintégration de l'élève, l'appel. Alors, je ne vous raconte pas la suite, c'est-à-dire, enfin, je ne vous raconte pas la suite. L'élève se retrouve dans sa classe, les profs ne veulent plus faire cours dans la classe, la fin de l'année va être totalement chaotique, une partie des profs vont partir, l'élève ne sait plus où se mettre l'année d'après, il va partir aussi, la professeure, elle est en congé de maladie longue durée, et elle est où, à votre avis? Ou comment ça s'appelle là? L'hôpital de la MGEN, la Verrière. Non, pas la Verrière, les Trois Épis. Elle est aux Trois Épis, elle y restait un an, quand même. Elle a totalement pété les plombs. Elle est dans un état que les psychiatres ne peuvent plus qualifier, et donc elle n'a jamais repris. Donc ça paraît, vous voyez, banal. Et voilà ce que ça devient. Donc elle a fait un travail de 80 pages, avec entretien et tout, alors il y a une culpabilité en plus qui n'a pas du tout été discutée. Tout le collège, tout le lycée se sent coupable, du chef d'établissement au professeur, il y en a qui vont s'en aller. Donc il y a une ambiance à la rentrée terrible, et ça finit donc très très mal, ils vont mettre 2 ans à s'en remettre. Quel gâchis conclut-elle en concluant son dossier? Alors voyez, ça c'est une histoire de classe, c'est pas n'importe laquelle. Tout à fait spectaculaire. Et je prends encore 3 minutes pour vous indiquer. Alors ça, c'est une classe. Il y a des choses bien plus simples. Hein, parce que là, j'ai pris un truc un peu compliqué. Mais ça peut être un mot de travers, quelqu'un qui ne veut pas travailler. Enfin, on vous avait demandé de réfléchir à des situations. Hein. Alors, par contre, la situation d'établissement que j'ai pris, donc je vais très très vite. C'est le collège de Trappe, Gagarine, que connaît bien Dominique Berthelot, que j'ai suivi pendant 7 ans, qui a totalement pacifié, alors, qui a mis 2-3 ans pour pacifier les élèves, y compris en s'appuyant sur, en partie, on va dire, sur la police, ou bon, sur ce qui se passait autour, sur les parents. Les parents participaient de la vie d'établissement à la fin, merci. Pour aboutir à la 7e année, à une émeute, qu'on a beaucoup analysée, parce que ça m'a quand même marqué. Il y a eu une émeute qui a duré une matinée, un lundi matin, suite au renvoi d'une infirmière qui a été mal négociée par la principale, c'est elle qui le dit. Hein. Alors on a fait une analyse dans le bouquin qu'on a publié avec 2 profs et avec l'avis de l'ensemble de l'établissement. On a sorti un livre chez ESF qui s'appelle « Banlieue, les défis d'un collège citoyen ». Et donc il y a 50 pages sur l'analyse de cet événement. Parce que ça a foutu en l'air tout ce qui avait été fait. 500 élèves dans la cour, dont 250 en train et de se bagarrer ou de casser des trucs. 50 000 euros de dégâts, c'est à peu près l'équivalent. Quoi, hein. Des trucs d'un seul coup, parce que renvoi de l'infirmière, qui était tout à fait, c'est vrai, dans son tort. Une infirmière qui était vraiment très proche des élèves, qui les écoutait beaucoup, qui les soutenait plus qu'autre chose, mais qui avait des pratiques qui ne plaisaient pas ni aux profs, ni aux chefs d'établissement, qui malheureusement, un jour, lui dit, bon, ben, ça suffit, elle avait fait une erreur encore par rapport à un élève qui était resté littéralement caché dans son infirmerie pour ne pas aller en cours. Donc elle dit, je vous licencie. C'est parti de ça. Les élèves ont pris le soutien, mais inconditionnel, de l'infirmière et ça a donné cette émeute fantastique. Je vous passe tous les détails. Donc ils m'ont appelé dans la journée après l'émeute. Je suis arrivé le soir vers 18h et on s'est réunis pendant un mois. Je suis arrivé, il y avait 40 personnes, le chef d'établissement, la conseillère d'éducation qui était visée par les élèves en particulier, et une partie des profs pleuraient. Ils pleuraient à chaudes larmes, parce que c'était l'effondrement complet, quoi. Et alors on a tout analysé de A jusqu'à Z, y compris les manipulations extérieures, parce que c'est vrai qu'il y avait des éléments pas très clairs, un quartier qui en avait profité pendant le week-end pour pousser, évidemment, l'attaque contre ce collège qui rayonnait dans le quartier, qui était respecté par tous les parents qui venaient dans l'établissement comme ils auraient été au supermarché, mais très très respectueux. Hein. Il y a eu quelques centaines de lettres de soutien quand même. Eh bien, ça a donné une affaire dramatique qu'on a analysée, on a mis des mots là-dessus et on l'a écrit. Ça a donné 21 conseils de discipline, et alors ce qui est formidable, c'est que 21 conseils de discipline avec 21 reclassements. C'est-à-dire, j'ai tenu dès le début, tout le monde a été d'accord avec moi, on va prendre des sanctions, on va faire ce qu'il faut faire, mais vous maintenez les devoirs pour tout le monde. Alors, ils ne venaient plus au collège, hein, mais les devoirs maintenus, corrigés, ça a duré 3 semaines, pendant tous les conseils de discipline, devoir maintenu corrigé, rendu, qui était rendu par des copains qui les apportaient, bon. Si bien que reclassement dans des établissements périphériques, à droite, en fait, il n'y a qu'un cas sur 21 qui n'a pas trop marché parce qu'il avait été reclassé trop loin, et c'est le seul des 21 qui est revenu 2 mois après, il a fait le mur et il s'y est pris, il s'en est pris physiquement à un prof, mais ça s'est arrêté tout de suite. Sinon, les 21 cas sont plus ou moins bien passés, et, mais ça a été le coup définitif. La chef d'établissement est partie, la moitié des personnels a demandé sa mutation, et ça a été l'effondrement. Et quand on a repris l'analyse de cet ensemble de choses, y compris avec une des élèves, une jeune maghrébine, qui avait été le leader de cette émeute, on a bien compris qu'il s'était joué quelque chose d'une incompréhension, et surtout ce qu'on a compris, ce que je vous dis, c'est la vitesse d'exécution qu'il faut avoir dans la réponse aux solutions. Non seulement il faut qu'il y ait de la prévention, mais dès qu'il y a quelque chose, ça m'a permis d'ériger encore, et je vais conclure là-dessus, une de mes conclusions qui devient une antienne. Vous avez un problème le matin, il faut le résoudre avant midi. Au pire, avant 17h. Il ne faut jamais dépasser le jour. Et vous devez avoir trouvé quelque chose ou montrer ou laisser entendre que c'est résolu, que c'est en train de se faire. Tout le monde doit le savoir. La famille, l'élève, les élèves, les pauvres. Vous attendez, là, c'était le week-end, quand on a repris tout ça, tout s'est installé entre le samedi et le lundi. Il faut résoudre, si vous avez un événement le matin, un événement le matin, vous le résolvez avant midi, ou vous mettez des mots là-dessus avant midi, ou avant le soir. Vous vous montrez, vous êtes là, et je ne vous la lirai pas, mais j'ai ici la lettre de cette leader qui était devenue une déléguée, hein, qui était une délinquante de quartier, et qui était devenue une des déléguées après 3 ans, et qui avait un rôle très positif, mais qui a sombré dans... C'est elle qui a pris les clés du portail, qui a fermé le portail à clé pour que personne puisse sortir, et qui a déclenché le processus. Et là, j'ai une lettre qu'elle a écrite plus tard, et ça a été dramatique, cette fille, parce que dans sa famille, il y avait des éléments pas très nets, dont un grand frère qui revenait d'Afghanistan. Elle a été cloîtrée, ils l'ont expédiée dans un lycée professionnel, là, je l'ai retrouvée à Nanterre 2 ans après. Elle a fait une dépression, une tentative de suicide. Je l'ai retrouvée en hôpital psychiatrique. Ils sont mis à la recontrôler une fois qu'elle est partie de l'établissement, et puis elle a tout arrêté, quoi. Et donc la dernière fois que je l'ai vue, elle était en HP. Une intelligence rare, cette fille. Elle aurait pu faire des études supérieures, je pense. Et là, elle écrit à la principale et lui dit, voilà, vous, vous êtes autoritaire et brave parce que tout ce que vous avez fait quand même, et nous, alors, on a tout foutu ça en l'air. Mais ce qui s'est joué, c'est un peu entre vous et moi qu'elle dit. Et dans ce qu'elle est en train de me raconter, elle dit quelque chose comme, finalement, j'aurais bien voulu être à votre place. Finalement, c'est vous, mon modèle. C'est peut-être pour ça que j'ai attaqué, quoi. Parce que vraiment, vous êtes quelqu'un que j'ai envie, quoi. Elle le fait, ce n'est pas possible. J'espère recevoir, par l'intermédiaire de sa copine, une réponse, parce que je vous fais mes excuses. Je vous le dis et je vous le répète, merci d'avance. Car Dieu seul sait ce que vous avez fait, et ce que vous faites encore malgré tous les obstacles que vous rencontrez, tout ça pour de simples élèves, alors que vous pourriez vous la couler douce. C'est son dernier mot. Fatima, je l'appellerai. Formidable, elle était. Je l'ai vu négocier avec le conseil général, faire des trucs, mais alors, à tomber par terre. Et puis ça finit comme ça. Pour un tout petit truc, c'est comme l'œuf, quoi. Hein. Voilà. Excusez-moi, je m'arrête parce que, vu le programme, il faut qu'on suspende un peu. Alors, je ne sais pas si tu as un temps de discussion prévu, comment... Ou si on enchaîne. Oui, alors, j'ai mon programme...
Moi, je pense que les collègues qui ont des questions à vous poser seraient plus stressés s'ils ne pouvaient pas le faire.
Bon.
Donc,
Allez-y. Et n'hésitez pas, hein. Alors, tout ça, vous trouverez écrit, je crois même que le bouquin de Trapp qui est épuisé maintenant, j'ai dû le mettre au moins aux 2/3, tout est gratuit sur mon site, hein, sur le site.
Effectivement, le fait de participer avec une
Allez-y. Alors, non, mais je ne suis pas en réaction.
Réaction.
Est-ce que sur la structure des situations, ça vous dit quelque chose? Oui, allez-y. Oui. La dégradation, parce qu'il y a eu, beaucoup de choses depuis longtemps. Hein. Il y a déjà 5 ans. Moi, j'ai commencé mes cours sur la violence en 81, 82. À la fac, on ne voulait pas me laisser faire ces cours sur la violence. On me disait, oulala, parler de la violence, ça va faire venir la violence. Il ne faut pas parler de la violence. J'envoyais mes... J'étais directeur de la formation des maîtres. J'envoyais mes futurs élèves maîtres. Je les envoyais sur les terrains les plus durs. J'ai eu des scènes au rectorat. Pas par le recteur, je l'ai chargé de mission. Mais par d'autres, hein, des IPR, par exemple, qui m'ont dit, mais vous êtes fous. Il faut les envoyer dans des écoles d'application, etc., des trucs comme ça. Alors effectivement, il y avait déjà des établissements, mais terribles. Sauf que ce qu'on appelait le hit parade à l'époque, hein. Il y avait à Versailles en 81-82, il y avait 22 établissements, et le recteur qui les connaissait, quelques-uns et moi. On avait les noms, on avait tout. Et ce hit parade, il ne bougeait pas dans la destruction, la détérioration, pendant des années. Alors, ce n'est pas pire aujourd'hui. Par contre, la seule chose qui s'est ajoutée à ça, c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce climat d'angoisse dépressionnaire qui mine le travail mental quoi, des personnels. Parce qu'à l'époque, les gens, ils trappent, ce jour-là, ils étaient abattus. Mais je suis arrivé dans des établissements, moi, je vous jure qu'il y avait des stagiaires, mais qui étaient heureux d'aller dans des établissements difficiles, parce qu'il y avait de l'ambiance, une équipe, soudée complètement quelque chose. Et par contre, aujourd'hui, dans la manière dont je vis, quand je circule, une partie de ces établissements, pas toujours, hein, mais quand même beaucoup, il y a toujours un climat de morose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le climat morose, c'est insupportable, parce que c'est ça qui mine. Donc c'est ça peut-être qui est vraiment nouveau, c'est cette spirale là, dépressionnaire, dirait Morin, qui fait que c'est peut-être une des premières choses qui serait à travailler. Comment restaurer de la convivialité, de l'ambiance? Vous savez, le collège de... Pas Gagarine, mais Attrape au collège Clémenceau, le chef d'établissement, avec les personnels, il avait embauché beaucoup d'élèves, des jeunes élèves de toute la France, aux grandes dames des spécialistes qui disaient, mais on me rigolait aussi au nez, moi, quand j'en parlais au ministère, dans tous nos groupes-là, parce qu'il avait embauché des gens de partout, et avec quelques personnes d'expérience autour de lui, moins de 10, et puis tout le reste des jeunes. Mais ils étaient jeunes disponibles, ils arrivaient trois quarts d'heure avant le matin, il avait aménagé l'établissement, le café était toujours prêt, il y avait à manger des trucs, ils discutaient entre eux, ils se réunissaient beaucoup, j'étais souvent là, on se réunissait toutes les 5 semaines, une journée entière, et ils faisaient un bal tous les 2 mois. Un bal du lycée. Donc, mais tout le monde, hein. Alors bal masqué, bal démasqué, tout ce que vous voulez, et j'avais été 2-3 fois, on dansait toute la soirée, et puis les gens rentraient chez eux, enfin, des trucs, fallait y penser. Ils ont rétabli la distribution des prix, par exemple, aux grandes dames aussi, beaucoup de gens, mais distribution des prix, mais avec des prix, y compris pour les professeurs, ou des prix, par exemple, pour les élèves, l'élève la plus souriante de l'établissement, elle avait un prix. Des tout petits trucs qui structurent l'ambiance. Alors c'est ça qui est changé, je ne sais pas où vous êtes, mais je suis quand même impressionné, je vais vous dire, c'est simple, hein, depuis 80, depuis, allez, oui, depuis 2000, 99-2000, c'est là qu'il y a eu le tournant, pour la raison que, suivez mon regard, il y a quand même, c'est vrai, des options politiques qui ont fait basculer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Par exemple, de Varvieux, il fait des choses très intéressantes, son bureau est à côté du bureau de Bauer. Il dépend complètement de ce que Bauer raconte sur la délinquance. Donc, si vous voulez, bon, c'est bien gentil. Enfin, mais si on veut tout mélanger, bon, non, mais je ne me gêne pas pour le dire. Hein. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est vrai que... Et ça peut être responsable, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous remarquerez qu'on évite systématiquement de mettre en place, justement, ce qui serait de l'ordre de l'institutionnel, des violences institutionnelles. D'autres questions, allez-y. La délinquance, moi, ça existe. Hein. J'ai collaboré avec la police, donc ça ne me gêne pas. Je suis comme les Anglais. La délinquance, c'est la police, terminée. Il y a un gamin qui a un couteau, la police. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. S'il est armé, s'il est plus qu'un couteau, alors là, c'est même pas la peine. C'est tout de suite, là. Tout de suite la plainte et le mandat d'amener. Il n'y a pas tellement à réfléchir. Ça, j'ai jamais eu d'état d'âme là-dessus. Mais alors après, vous avez tout le reste, quoi. Comment ça se construit, comment ça...